Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le Grand Mold, d'Alain Fournier. Le Grand Mold, publié en 1913, c'est ce roman d'une grande finesse d'écriture et de psychologie sur l'adolescence qui n'en finit pas de fasciner. Pouvoir de la mémoire, entre l'acte du réel et de la féerie, drame de la perte de l'innocence enfantine, collision de la modernité avec la société rurale, nostalgie, deuil, c'est tout cela et plus encore, Le Grand Mold. Le roman se déroule en trois parties. Dans la première partie, le narrateur, François Sorel, raconte l'histoire d'Augustin Mold, ancien camarade de classe devenu son ami. François, 15 ans, et Augustin, 17 ans, sont tous les deux élèves au cours supérieur de Sainte-Agathe, petit village du Haut-Berry, inspiré d'Épineuil-le-Fleuriel, situé par l'auteur dans le Cher, près de Vierzon. Lors d'une escapade, Augustin Mold arrive par hasard dans un domaine mystérieux où se déroule une fête étrange, poétique et pleine d'enfants. Mold apprend que cette fête est donnée à l'occasion des noces de France de Galais. Mold y rencontre une jeune fille, Yvonne de Galais, sœur de Franz. Il en tombe instantanément amoureux et n'a plus l'occasion de la revoir. Quant au mariage attendu, il n'a finalement pas lieu car la fiancée de Franz, Valentine, a disparu, refusant de devenir sa femme. Les membres de la fête se dispersent et Franz, désespéré, disparaît en laissant à sa sœur Yvonne un mot d'adieu. Les Galais sont fils de châtelains encore nombreux dans cette région de Sologne, célèbres pour ses chasses, mais dont certains sont conduits à la ruine, vendant peu à peu leurs biens et ne gardant que le respect attaché à leur qualité d'aristocrate terrien. Débute la deuxième partie. Revenu à sa vie d'étude, Mold n'a plus qu'une idée en tête, retrouver le domaine mystérieux et la jeune fille dont il est tombé amoureux. Ses recherches restent infructueuses jusqu'au jour où les deux garçons se lient d'amitié avec un jeune bohémien. Celui-ci leur confie l'adresse d'Yvonne de Galais à Paris et leur fait jurer de répondre à son appel quand il aura besoin d'eux. Puis, il disparaît après leur avoir dévoilé sa véritable identité, Franz de Galais. Mold décide alors de partir étudier à Paris et tente à nouveau de retrouver Yvonne, sans succès. Les mois passent et François n'a plus de nouvelles de son ami. Enfin, troisième partie. C'est par hasard que François, bientôt instituteur, retrouve la piste d'Yvonne de Galais. Dès qu'il est sûr de son fait, il part annoncer la nouvelle à son ami Mold. Mold demande Yvonne en mariage et la jeune fille accepte. Mais Franz vient rappeler aux deux jeunes gens leur promesse, lui venir en aide alors qu'il cherche vainement sa fiancée Valentine. Le lendemain du mariage, Mold disparaît sans laisser de nouvelles. François décide de venir en aide à Yvonne, devenue une amie proche dont il en devient peu à peu le confident. Quelques mois passent et Mold ne donne toujours pas de nouvelles. Un jour, Yvonne apprend à François qu'elle est enceinte de Mold. François décide donc de s'occuper d'elle en attendant le retour de son mari. L'accouchement d'Yvonne se passe très mal. La jeune femme meurt d'une embolie pulmonaire après avoir donné naissance à une petite fille. François devient légataire universel de la famille jusqu'au retour de Mold et s'occupe de la fille de son ami. On recense deux adaptations du Grand Mold au cinéma. Jean-Gabriel à Bicoco en 1967 et Jean-Daniel Verrague en 2006. Alain Fournier, pseudonyme d'Henri Alban Fournier est né le 3 octobre 1886 à la chapelle d'Angillon, dans le Cher, à 30 km au nord de Bourges. Il vit l'essentiel de son enfance à Épineuil-le-Fleuriel, tout au sud du département. Il y sera, cet endurant, l'élève de son père et aura pour compagne de jeu et de lecture sa sœur Isabelle. Fils d'instituteur, Alain Fournier accorde une place importante au cadre de son enfance, le monde rural du Berry et l'école d'Épineuil-le-Fleuriel, village devenu Sainte-Agathe dans le Grand Molde, où son père était le modèle de ce que Charles Péguy nomme les hussards noirs de la sévérité et de la République. Le romancier naît à l'époque où sont votées les lois sur l'école, dites lois Ferry, du nom de celui qui a été ministre de l'instruction publique de 1879 à 1883. Elle déclare l'instruction primaire obligatoire de 6 à 13 ans révolus, gratuite et laïque. Son couronnement est le diplôme du certificat d'études primaires élémentaires. À 12 ans, Fournier part pour Paris, où il commence ses études secondaires au lycée Voltaire, récoltant presque tous les prix. Rêvant d'être marin pour faire des voyages, il convainc ses parents, en septembre 1901, qu'il faut aller à Brest préparer le concours d'entrée à l'école navale. L'expérience sera trop rude et il y renonce 15 mois plus tard. C'est au lycée de Bourges qu'il prépare le baccalauréat. Il l'obtient, sans mention, en juillet 1903. Comme beaucoup de jeunes provinciaux, comme Péguy et Giraudoux avant lui, il va poursuivre des études supérieures de lettres au lycée Lacanal à Sceaux, de 1903 à 1906, puis au lycée Louis-le-Grand de Paris, où il prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure. C'est au lycée Lacanal qu'il rencontre Jacques Rivière, avec lequel il se lie d'une amitié profonde. Celui-ci étant reparti à Bordeaux en 1905, il entretient avec lui une correspondance presque quotidienne, qui sera publié en 1928. Jacques Rivière épousera sa jeune sœur Isabelle en 1909. Le 1er juin 1905, à 18 ans, il croise à la sortie d'une exposition de peinture au Grand Palais une grande et belle jeune fille, Yvonne de Quièvrecourt. Mais cet amour est impossible. Yvonne est fiancée et épousera effectivement l'année suivante un médecin de marine. Bouleversé par cette brève rencontre, Fournier ne cessera 8 années durant de penser à la jeune femme et de l'évoquer dans sa correspondance. Il s'en inspirera pour le personnage d'Yvonne de Galais dans Le Grand Molde. Après son échec à l'oral de Normal en juillet 1907, il effectue son service militaire d'octobre 1907 à septembre 1909. Le 5 mai 1912, présenté par Charles Péguy, il devient secrétaire de Claude-Casimir Perrier, fils de l'ancien président de la République, et l'aide à mettre au point un ouvrage sur le port de Brest. Il fréquente dès lors l'épouse de celui-ci, Pauline Benda, célèbre au théâtre sous le nom de Madame Simone. Simone, qui révélera en 1957 la liaison passionnée, souvent orageuse, qu'elle a eue à partir de juin 1913 avec le jeune écrivain de 9 ans son cadet, dans son livre « Sous de nouveaux soleils ». Le Grand Molde paraît en volume en novembre 1913. Le roman manque de peu le prix Goncourt, mais sera salué presque unanimement par la critique de l'époque. Lieutenant de réserve, Alain Fournier est mobilisé le 2 août 1914. Il prend part à plusieurs combats meurtriers autour de Verdun. Alain Fournier tombe au champ d'honneur le 22 septembre 1914 à Saint-Rémy-la-Calonne. Âgé de 27 ans. Il arriva chez nous un dimanche de novembre. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans, et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitions des bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais M. Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur où l'on préparait le brevet d'instituteur et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge, avec 5 portes vitrées sous des vignes de vierges à l'extrémité du bourg. Une cour immense avec préaux et buanderies qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille qui menait vers la gare à 3 km. Au sud, par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie. Demeure d'où partir et revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures. L'arrivée d'Augustin Molne, qui coïncida avec ma guérison, fut le commencement d'une vie nouvelle. Avant sa venue, lorsque le cours était fini, à 4 heures, une longue soirée de solitude commençait pour moi. Mon père transportait le feu du poêle de la classe dans la cheminée de notre salle à manger, et peu à peu les derniers gamins attardés abandonnaient l'école refroidie où roulaient des tourbillons de fumée. Il y avait encore quelques jeux, des galopades dans la cour. Puis la nuit venait. Les 2 élèves qui avaient balayé la classe cherchaient sous le hangar leurs capuchons et leurs pèlerines, et ils partaient bien vite, leurs paniers au bras, en laissant le grand portail ouvert. Alors, tant qu'il y avait une lueur du jour, je restais au fond de la mairie, enfermé dans le cabinet des archives plein de mouches mortes, d'affiches battant au vent, et je lisais assis sur une vieille bascule auprès d'une fenêtre qui donnait sur le jardin. Lorsqu'il faisait noir, que les chiens de la ferme voisine commençaient à hurler et que le carreau de notre petite cuisine s'illuminait, je rentrais enfin. Ma mère avait commencé de préparer le repas. Je montais 3 marches de l'escalier du grenier. Je m'asseyais sans rien dire et, la tête appuyée au barreau froid de la rampe, je la regardais allumer son feu dans l'étroite cuisine où vacillait la flamme d'une bougie. Mais quelqu'un est venu qui m'a enlevé à tous ces plaisirs d'enfant paisible. Quelqu'un a soufflé la bougie qui éclairait pour moi le doux visage maternel penché sur le repas du soir. Quelqu'un a éteint la lampe autour de laquelle nous étions une famille heureuse, à la nuit, lorsque mon père avait accroché les volets de bois aux portes vitrées. Et celui-là, ce fut Augustin Molne, que les autres élèves appelèrent bientôt le grand Molne. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.